Aujourd'hui, le hip-hop est un genre artistique majeur. Depuis sa naissance dans le Bronx dans les années 70, ce mouvement s'est rapidement répandu à travers le monde entier, jusqu'à devenir la nouvelle pop. Le hip-hop est à présent partout. TV, radio, médias, internet, et j'en passe. Certains d'entre vous sont même fans de cette culture. Mais en connaissez-vous ses origines et son histoire? C'est ce que nous allons découvrir maintenant.
Hip-hop Story, les labels. Ruthless Records.
De Ruthless Records, on ne retient souvent que l'énorme impact qu'a eu NWA sur la culture hip-hop. Mais Ruthless Records, c'est aussi un label qui a rassemblé beaucoup d'artistes et fait découvrir de nombreux talents hors normes. Ces talents qui ont contribué à faire de ce label une formidable machine à cash. Au total, on compte plus d'une vingtaine de signatures en moins de 10 ans d'existence active. Parmi elles, on retrouve les HWA pour Oz With Attitude, Blood of Abraham, le premier groupe de rap 100% cachère, le crooner Cocaine, sosie vocale de George Clinton, ou bien encore les Adban Clan, composés de Will.i.am et Apple the Hap, qui formeront par la suite les Black Eyed Peas. Ruthless est un label emblématique de la West Coast. Il a popularisé le G-Funk et le Gangsta Rap. Il est une pièce importante de l'histoire du rap. Sans ce label, Death Row, G-Unit et autres Rocafella n'auraient très certainement jamais vu le jour. Eazy-E. Eric Lynn Wright est né de Richard et Kathy Wright le 7 septembre 1964 à Compton, en Californie. Un quartier chaud de Los Angeles, connu pour ses gangs et ses activités criminelles. Son père est facteur et sa mère est directrice d'école. Wright subvient à ses besoins en dealant, une activité que son cousin lui a appris. En 1986, à l'âge de 22 ans, Wright compte déjà 250 000 dollars de gains issus de ses ventes de drogue. Cependant, après l'assassinat de son cousin, il décide de se reconvertir dans la scène hip-hop de Los Angeles. Un genre qui grimpe à cette période, qui grimpe rapidement en popularité. Au milieu des années 1980, il commence à faire des enregistrements dans le garage de ses parents. Jerry Heller. Né dans une famille juive à Cleveland, en Ohio, Heller a servi dans l'armée des États-Unis et a fréquenté le collège à l'université de Californie du Sud. Il commence à travailler dans le business du management d'artistes en 1963. Après avoir travaillé chez Coast Artists, Associated Booking et le Chartwell, il ouvre l'agence Heller Fischel à Beverly Hills, en Californie. Ce business lui rapporte 1,9 million de dollars au cours de sa première année, 3,7 la deuxième et 5,8 la troisième, et plus de 7 millions de dollars sa quatrième année d'exploitation. Son agence représente beaucoup de stars du rock comme The Who, Pink Floyd, Grand Funk Railroad, Black Sabbath, Humble Pie, Black Hawk Arkansas, ainsi que quelques écrivains de l'époque. Il représentait aussi World Class Wrecking Crew, un groupe de funk électro composé de Dr. Dre et DJ Yella. En 1986, Dre, qui avait rencontré il n'y a pas très longtemps Eazy-E, lui demande 900 $ pour payer sa caution. Il avait été arrêté pour cause d'amende non payée. Et Eazy-E accepte, mais à la seule condition qu'il soit producteur du label qu'il est en train de monter. Eazy-E se met au travail et fait venir des artistes new-yorkais, les HBO, Homeboys Only, à Los Angeles. Il loue un studio pour l'occasion pour enregistrer le morceau. Mais le problème est que le gap de culture entre les deux côtes est différent. Et les rappeurs ne se comprennent pas entre eux. Déjà, les textes écrits par Ice Cube ne sont pas compris par les rappeurs, les HBO, ce qui fait éclater une dispute. et finalement, le groupe refuse d'enregistrer. Faute d'artiste, Dre et ses amis suggèrent à Easy d'enregistrer le morceau écrit par Ice Cube. En premier lieu, il refuse, rétorquant qu'il n'est pas un rappeur, puis se laisse finalement convaincre. Mais Easy n'est pas un rappeur, il enregistre avec beaucoup de mal et il s'est dit qu'il aurait mis plus de 24 heures à enregistrer Boys in the Hood. Il fait presser les disques avec l'argent qu'il récolte en 10 ans, puis lance le single. Il obtient des bons retours. Aussi, il provoque une rencontre avec le manager d'artiste Jerry Heller. Afin d'obtenir un rendez-vous avec lui, il paye $750 Lonzo Williams pour organiser la rencontre. Suite à cela, ils montent une société ensemble et il est décidé que Easy empoche 80% des revenus de celle-ci et Heller 20%. Selon Heller, il aurait dit à Wright que pour chaque dollar qui revient à Ruthless, je prends 20%, c'est la base pour un manager de mon cali. Je prends 20% et tu prends 80%. Je gère mes dépenses et toi tu gères les tiennes. La société t'appartient, je travaille pour toi. Selon Alonso, dans une interview pour Vlad TV, Jerry Heller manageait le Wrecking Crew à l'époque et Dr. Dre devait être le copropriétaire du label avec Easy. Jerry devait juste s'occuper du management de Easy, mais le deal n'est pas allé au bout. Avec Heller, Eric White, aka Easy, investit la majeure partie de son argent pour Ruthless Records. En 1986, Jinx introduit Ice Cube à son cousin Dr. Dre, alors membre du groupe World Class Wrecking Crew. Ils deviennent alors amis. Ils performent alors dans ses fêtes, et dans le même temps, Cube fait partie du groupe Studio Crew et se fait un nom dans la scène locale, notamment dans les lycées des environs. En effet, Cube et Dre sont toujours lycéens à cette époque. Studio Crew se sépare, puis Cube forme un autre groupe, See Hi Hey. Boys in the Hood, comme dit précédemment, a été écrit par Ice Cube avec quelques contributions d'Easy. Le titre parle de grandir à Compton et décrit un lifestyle de gangster. Le single d'Easy se vend à 200 000 copies. Suite au succès du single Boys in the Hood, les NWA sont formés. Leur premier single en tant que NWA est Panic Zone. Il sort le 13 août 1987. Panic Zone est aussi présent sur l'album de NWA and the Posse, l'équipe qui est à l'époque composée de DJ Tren, Sir Jinx, MC Chip, Mac Ren, Easy, Dr. Dre, Caddy, Ice Cube, Arabian Prince, DJ Scratch, Crazy D et Candyman. DJ Yella et The DOC ne sont pas encore de l'aventure à ce moment-là. La compilation NWA and the Posse fait suite le 6 novembre 1987 sur Macola Records, le premier distributeur pour le label de NWA, Ruthless Records. Les autres singles seront Boys in the Hood, Hate Ball et Dope Man. En 1987, malgré le succès de NWA, Cube décide de faire un break pour aller étudier à la Phoenix Institute of Technology. En 1985, à Rialto, en Californie, Juana Burns, MC JB, Juan Italy, Crazy J, Fatima Shahid, OG Rocker, Anna Cash, Lady Anna et Diana Brock, BBD, forment JJ Fald. Le nom du groupe est un acronyme fait de la première lettre du prénom de chacun des membres. Plus tard, Cash, Shahid et Lee quittent le groupe, laissant JJ Fad en duo. Les autres membres originaux, Burns et Burks, ont été rejoints par Mitchell Franklin, Sassissi et DJ Tren. En 1987, le groupe signe chez Ruthless Records. Le single Supersonic sort en 1988. Arabian Prince, Dr. Dre et Yella produisent ce titre. Et il devient un hit underground. Il se vend à 400 000 exemplaires en indépendant avant que Heezy et Jerry Heller n'obtiennent au groupe un contrat d'enregistrement avec Hatco Records. Le single est suivi de l'album du même nom. Il est produit par Arabian Prince et l'album a des couleurs pop et électro et est accessible au grand public. Contrairement à de nombreux rappeurs de la côte ouest de l'époque. En raison de leur implication avec Ruthless Records, des crédits de coproduction ont été ajoutés pour Dr. Dre et DJ Ella. L'album sera platine et sera nominé en tant que meilleur performance rap aux Grammy Awards de 1989. Ce qui sera une première pour un groupe de rap féminin. Ice Cube, alors âgé de 19 ans, revient à Compton durant l'été 1988, après son année à la Phoenix Institute of Technology. Le groupe produit alors l'album solo de Easy, Easy Does It. Dre et Yella produisent la majorité de l'album, tandis que Ice Cube et McRae écrivent la plupart des paroles. L'album sort le 13 septembre 1988 chez Ruthless Records et Priority pour la distribution. L'album a figuré sur deux classements différents et devient double platine aux États-Unis malgré le très peu de promotion par la radio et la télévision. Trois singles de l'album sont sortis. La production de l'album est presque exclusivement réalisée par Dr. Dre et DJ Ella. Elle a été saluée par plusieurs critiques. La production de l'album fusionne avec le P-Funk, le hip-hop de style de Def Jam et les sons électro du milieu des années 80 à Los Angeles. Tout ceci crée un style un peu dance, funky et tout à fait unique. L'album a reçu très peu d'attention des stations de radio et de télévision, mais a obtenu le soutien du hip-hop underground de LA. Le 20 mai 1989, il a culminé à la 41e place sur le Billboard 200 et est resté présent dans les charts pendant plus de 90 semaines. Le 15 février 1989, l'album a été certifié or, 500 000 ventes, par la Recording Industry Association of America. Et le 1er juin 1989, il a été certifié platine, soit 1 million de ventes. Puis le 1er septembre 1992, il reçoit sa certification double platine, soit 2 millions d'exemplaires vendus. Arabian Prince et The D.O.C. rejoignent le groupe N.W.A. sur l'album Straight Outta Compton. Sorti chez Priority Records et Ruthless Records le 8 août 1988, Straight Outta Compton détaille la vie des jeunes dans les quartiers de Compton. Le groupe l'appelle le reality rap. Les sujets sont la brutalité policière, les gangs, le trafic de drogue et les femmes. L'album a été vivement critiqué à cause de sa violence et de son sexisme par les conservateurs et une grande partie des adultes de la société. Les radios et même MTV les bannit. Cependant, rien de comparable avec la controverse qui a entouré Fuck the Police. La chanson parodie un procès criminel dans lequel Ice Cube, McRae et Eazy-E témoignent contre le département de police devant un juge, qui dans le clip est joué par Dr. Dre. Les paroles, donc en fait les procureurs dans le clip, critiquent vivement le département de police pour les délits de faciès, les arrestations arbitraires et la brutalisation des minorités. Dans leur couplet, Ice Cube, McRae et Eazy-E menacent également les policiers. Ces paroles ont fait l'objet de la plus grande controverse, bien que leur contenu alarmant ait été efficace pour susciter une conversation sur le racisme et la militarisation au sein des forces de police. La chanson est devenue de plus en plus pertinente quelques années plus tard, à la suite du passage de Ataba de Ronicky. Et elle continue à être utilisée comme une chanson de protestation jusque dans le 21e siècle. On l'a vu avec George Floyd. Straight Outta Compton atteindra alors, soit 500 000 albums qui seront vendus le 13 avril 1989. Il atteindra la 9e place du Billboard Top R&B Hip Hop Album et la 37e place du Billboard 200. En juillet 1989, l'album sera certifié platine avec 1 million de copies vendues. Peu après la sortie de l'album, le 1er août 1989, le FBI envoie une lettre d'avertissement à Priority Records et à NWA concernant Fuck the Police. Elle est signée du directeur adjoint, Milt Heilrich. La lettre accuse les rappeurs de promouvoir la violence et l'irrespect à l'encontre des forces de police. Une aubaine pour le groupe qui, à l'époque, peinait sérieusement à se faire connaître. MTV ne jouait pas leurs clips, on le rappelle, et les radios ne diffusaient pas leurs morceaux. Priority Records va alors s'empresser de diffuser le document dans les médias, tandis que NWA s'affuble du titre du groupe le plus dangereux du monde. Même si légalement parlant, le bureau fédéral ne disposait d'aucune marge de manœuvre. La lettre du FBI a stimulé les ventes d'albums, qui ont atteint 750 000 ventes avant la tournée du groupe en 1989. L'album, qui comprend également le hit Express Yourself, a finalement atteint le triple platine et est largement considéré comme l'un des albums hip-hop les plus influents de tous les temps. À l'adolescence, Curry commence le rap au sein du groupe Fila Fresh Crew, un groupe de hip-hop de Dallas dont il était originaire. Son blaze était alors Doc T. En 1987, le groupe pose 4 titres sur la compilation NWA and the Posse. Lorsque le groupe se sépare, Tracy Lynn Curry, de son vrai nom, déménage à Los Angeles et fréquente les membres de la NWA et Ruthless Records. Il deviendra très proche de Dr. Dre. En signant chez Ruthless, il se rebaptise The DOC pour Dallas of Compton. The DOC participe à l'écriture du second album de NWA, Straight Outta Compton, et au solo de Eazy-E, ainsi que le premier album de Michelle Lee. En 1989, The DOC sort son premier album solo, No One Can Do It Better. Il est entièrement produit par Dr. Dre. Ce sera un énorme succès. L'album est numéro 1 au top R&B Pop Albums pendant 2 semaines. Il atteint également le top 20 au Billboard 200. Il sera certifié or 3 mois après sa sortie, puis platine en avril 1994. Malheureusement, un accident aura raison de ses cordes vocales, mettant un frein à la carrière de celui que son manager de l'époque, Jerry Heller, considéré comme un des meilleurs paroliers du hip-hop. Michelle Lee est une chanteuse qui fait ses débuts en 1987 en qualité de vocaliste sur le single Turn Off the Lights du World Class Wrecking Crew. Elle a la particularité d'avoir une voix enfantine très aiguë qui contraste beaucoup avec sa manière de chanter. En 1989, elle signe un contrat chez Ruthless Records, le label de Eazy-E, et sort son premier album studio homonyme, entièrement produit par son petit ami de l'époque, Dr. Dre. L'opus, qui contient les tubes No More Lies, Nice Tea et Something in My Heart, est certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America, ou RIAA. Et ça le 25 avril 1990, avec plus d'un million de copies vendues. Lorsque Ice Cube quitta NWA en 1989, Eazy-E espère qu'une signature récente comblera le vide. Le groupe de gangsta rap Above the Law, originaire de Pomona, renvoie à peu près la même image dure que Ice Cube avait. Leur premier album, Living Like Hustlers, sorti en 1990 et avant The Chronic de Dr. Dre, est considéré par les puristes comme le premier album de G-Funk de l'histoire. Une controverse qui fera opposer plus tard Dr. Dre et le producteur Cold 187 Hum, qui l'accusait de lui avoir piqué le concept. Un autre différent éclate entre Ice Cube et Above the Law. Tout part d'une phrase d'Ice Cube qui a dit dans une interview que tout le son qui ne vient pas de Compton ou de South Central en Californie, c'est de la merde. La première bagarre entre eux se passe au Hanayam Show. À la suite de cet incident, Ice Cube engage Dallin Schmub pour sa protection. Le New Music Seminar de 1990 est marqué par un échange violent entre l'équipe de Ice Cube, Dallin Schmub, et Above the Law, Dizzy. Les deux parties se sont affrontées dans ce que le magazine Spin a par la suite surnommé une bagarre à éclater les visages et à jeter les tables n'importe où. Le combat a lieu juste avant que toute la partie rap se présente en concert et a aussi presque compromis la place du hip-hop dans ce séminaire. Le groupe signera tout de même 4 projets chez Ruthless qui seront tous certifiés or ou platine. 25 ans plus tard, Dre et Cold 187 hommes se retrouveront néanmoins sur la tracklist du projet Compton de Dr. Dre pour boucler la boucle sur le titre Loose Cannons. En décembre 1989, un peu plus d'un an après la sortie de Straight Outta Compton, Ice Cube quitta le groupe suite à un conflit par rapport à des redevances. Après avoir écrit de nombreuses paroles de l'album et joué sur plusieurs de ses chansons, Ice Cube a estimé qu'il n'était pas payé de manière appropriée pour ses contributions. Sa relation avec LR, le manager du groupe, s'est rapidement aggravée au cours de ce différend. Et Ice Cube est parti poursuivre sa carrière solo, où il a, à plusieurs reprises, insulté LR et les autres membres de NWA dans ses paroles. Le différend a été réglé à l'amiable en 1990. La NWA, qui compte maintenant 5 membres, Eazy-E, Dr. Dre, DJ Ella, Macren et The D aussi, sortent l'EP 100 Miles and Running le 14 août 1990. L'EP comporte un nombre de références à Ice Cube, y compris son surnom Benedict Arnold sur la chanson Real Niggas. Pour finir, le groupe sort leur deuxième et dernier album studio, A Feel for Zaggin, qui veut dire Niggas for Life à l'envers. Sorti le 28 mai 1991 sous Ruthless Records et Priority Records, l'album n'a pas approché le succès de Straight Outta Compton. Il a cependant atteint le numéro 1 du Billboard 200 au cours de sa deuxième semaine. Et sa production, réalisée principalement par Dr. Dre, est considérée comme un tournant décisif dans l'histoire du son hip-hop. Les piques adressées à Ice Cube sur cet album poussent celui-ci à intégrer quelques mois plus tard le titre clashant la NWA, No Vaseline, sur son deuxième album solo, Death Certificate. Vers la fin des années 80, début des années 90, Suge Knight, un grand gaillard d'1m90 et 120 kg, ancien joueur de foot américain, et le garde du corps de The D aussi. Il rentre donc peu à peu en contact avec les membres de NWA. En voyant Ruthless Records de près, l'envie lui vient de créer son propre label de musique. Dr. Dre était devenu insatisfait de son contrat avec Ruthless Records au moment de la sortie de Elif for Zagin. Il déclare qu'il n'a été payé que 20 000 dollars pour cet album. Lorsque The DOC et Dr. Dre veulent quitter le groupe, ainsi que leur label, Sudge leur propose de créer un nouveau label ensemble. Le problème est que Dre est encore sous contrat chez Ruthless, et c'est ensemble qu'ils imaginent un petit stratagème. Alors Dre aurait appelé Easy pour un rendez-vous à un lieu donné, mais sur place, alors que Easy est seul, il trouve Sudge et plusieurs de ses gars armés de bats de baseball, mais aucune trace de Dre. Suge menace alors Easy que ses gars sont en route chez sa mère et qu'ils vont s'en prendre à elle si elle ne signe pas. Sous la contrainte, Easy signe alors les documents, libérant Dr. Dre, The DOC et Michelle Lee. Dans ses mémoires, Jerry et Laure confient qu'après cette histoire, Easy est allé le voir pour le prévenir qu'il allait tuer Suge Knight. Et Laure arrive à l'en empêcher, de justesse. À ce moment-là, la tension entre Suge Knight et Easy est à son comble. Mike Klein, ex-agent israélien embauché par Ruthless, avait même fait courir le bruit à Suge que s'il l'approchait de Ruthless encore une fois, il le tuera, il le découpera et disposera ses restes éparpillés dans tout Los Angeles. Début 1992, lui et Z2 aussi quittent NWA et Ruthless Records pour Death Row Records, mettant fin ainsi à la NWA. Les membres restants, Easy, McRae et DJ LA, ont poursuivi une carrière solo, en faisant quelques collaborations aussi ensemble. Et c'est Easy qui connaîtra le plus grand succès des trois. Pendant ce temps, Dr. Dre et Ice Cube, eux, avaient aussi la chance de faire leur carrière solo, ce qu'ils feront avec succès. Et bientôt, Dre et Easy commenceront aussi leur propre rivalité. Dans la même année, Ruthless Records attaque Death Row en justice pour racket. Dans le même temps, Interscope obtient les droits exclusifs de distribution des disques produits par les nouveaux labels de Suge Knight, Death Row. Jimmy Iovine, copropriétaire d'Interscope, écoute l'album The Chronic de Dr. Dre et pense là trouver une pépite. Une pépite qui fera remonter la pente de son label qui est en difficulté. Il le veut absolument. Iovine s'entend avec Eazy-E et LA pour qu'à chaque production de Dr. Dre au sein de Death Row, Ruthless récupère 10% de ses gains et aussi 15% de ses gains tirés pour chaque disque sorti. L'attaque en justice est alors abandonnée. Dr. Dre peut sortir ensuite The Chronic, ce qui fera le 26 décembre 1992, et dans lequel le second single Fuck With Dre Day and Everybody's Celebrating en feat avec Snoop Dogg est un clash adressé à Easy. Un clip accompagne le single. Dans celui-ci, Easy est parodié par l'acteur AJ Johnson. Il est renommé Sleazy. Dans le clip, il est accompagné par un homme décrit comme un obèse producteur de disques de la maison Useless Records. Basé sur le manager d'Easy, Jerry Heller et du label Ruthless Records. Dre et Snoop apparaissent dans le clip. Easy, lui, répondra par Real Motherfucking Jizz en août 1993, en featuring avec Dresta et BJ Knockouts. Le clash sera lui aussi accompagné d'un clip. La vidéo reprend exactement où celle de Dre et Snoop s'arrêtait, avec le même acteur qui jouait Sleazy, AJ Johnson. Et dans le clip, le vrai Easy course Sleazy avec son équipe. Et dans le son, bah, Easy traite de Dr. Dre et Ice Cube de Voyou de Studio et Snoop Dogg d'Anorexic. Les deux clashs interposés seront des succès. Et en plus, dû à l'accord qu'a passé Ruthless avec Death Row, à chaque fois que Dr. Dre clashait Easy, ce dernier gagnait de l'argent sur son dos, comme avec le morceau Dre Day. D'où la punchline d'Easy, Dre Day is only Easy Payday. Formé en 1993 à Cleveland dans l'Ohio, le groupe est originellement appelé The Bonehead Boys. Ils forment ensuite B.O.N.E. Enterprise, qui se compose de 5 membres, Crazy Bron, Lazy Bron, Busy Bron, Wiz Bron et plus tard Flesh and Bone. Ensemble, ils enregistrent un album intitulé Faces of Death dans le studio de leur ancien mentor, Kermit Henderson, le frère cadet de Crazy Bone, sur son label indépendant Stony Borky en 1993. Le 2 novembre 1993, le groupe passe une audition pour Easy. Crazy Bone joue son couplet du titre Flow Motion issu de l'album Faces of Death, ce qui impressionnera Easy. À ce moment-là, Easy les nomme Tugs and Harmony. Mais souhaitant conserver le nom de Bone, le groupe opte pour Bone, Tugs and Harmony. Easy signe le groupe, sauf Flesh and Bone, dans son label Ruthless Records. Easy s'est grandement investi dans l'EP des Bone, Tugs and Harmony, Creepin' on Hey Come Up. Il produit l'intro, coproduit For That Love of the Money avec DJ Ella et apparaît sur 3 sons. Avec des singles comme Tuggish Ruggish Bone, For the Love of the Money, il finira 4 fois platine. 13 mois plus tard sera E.1999 Eternal, leur premier album long format chez Ruthless. Il sera numéro 1 et s'écoule à plus de 4 millions d'unités aux États-Unis et 10 millions dans le monde. Mais malheureusement, Easy ne verra pas le succès, car il meurt 4 mois avant la sortie de l'album. Le single The Crossroads est un hommage à Easy et aidera à porter l'album. En effet, en 1995, Easy est admis au centre médical Cedars-Sinai Medical Center à cause d'une forte toux. Il y sera diagnostiqué avec le sida. Son avocat fait une déclaration publique assez rapidement. À partir de là, sa maladie se développera de manière fulgurante. Une vitesse qui n'est pas commune aux malades du sida. Alors qu'il est dans un état critique au centre médical Cedars-Sinai, lui et sa petite amie de longue date, Tomika Woods, qui était enceinte du deuxième des enfants de Easy, ensemble, se sont mariés vers 21h30, le 14 mars, entouré de sa famille proche. Au moment de l'annonce du rappeur de sa maladie, Woods et l'enfant d'Easy, né un an plus tôt, avait été testé négatif pour le VIH et le sida. Dans la déclaration préparée qui a été lue par Ron Sweeney, Easy a reconnu qu'il avait mené un style de vie plein de débauches. Et qu'avant Tomika, 6 femmes différentes étaient devenues mères de ses 7 enfants. J'avais d'autres femmes, a-t-il admis. Peut-être que le succès a été trop bon pour moi. Apprenons la nouvelle. Dr. Dre visite Easy et ils se réconcilient sur son lit d'hôpital. Seulement un mois après l'annonce de sa maladie, Easy meurt le 26 mars 1995. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles, y compris d'anciens membres de la NWA. Il est enterré dans un cercueil en or et portait sa tenue vestimentaire à l'époque où il était à Compton. Environ 10 mois après sa mort, son dernier album intitulé Straight of the Street of the Motherfucking Compton sort. Le maire de Compton de l'époque, Omar Bradley, déclare le 7 avril comme étant le Easy E Day. Eric a rendu Compton célèbre non seulement en Californie, mais partout dans le monde. je reconnais Easy comme un jeune homme qui a grandi dans les rues de Compton. Et frères et sœurs, nous savons que ce n'est pas facile de grandir à Compton. Selon son fils, il valait environ 50 millions de dollars au moment de sa mort. Easy avait une vraie vision business. Il a créé une véritable cash machine qui générait jusqu'à 10 millions de dollars par mois, et tout ça avec seulement 6 employés. Businessman, rappeur, inventeur de concepts, Easy était également un dénicheur hors pair de nouveaux talents. On lui doit les premiers pas dans l'industrie musicale de Will.i.am, des Black Eyed Peas, du groupe Above the Law, ou encore des Bone Thugs and Harmony. Aussi, Priority Records estimait que 80% des ventes de Straight Outta Compton provenaient des quartiers de classe moyenne et aisée, et non pas des ghettos. Dr. Dre et Ice Cube ont contribué à faire de la bonne musique au XXIe siècle, établissant leur propre légende en tant que figure du hip-hop. Mais N.W.A. marquera très fortement la culture hip-hop et l'industrie musicale aux États-Unis par sa force de frappe venue des ghettos de Compton. En 2015, un biopic sur le groupe Straight Outta Compton est sorti dans les cinémas et a été un immense succès, tant commercial que critique. L'année suivante, N.W.A. est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Voici pour la story. Vous trouverez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes. Le lien en description. Vous pouvez aussi jouer au quiz sur l'application Rap Quiz en rapport à cet épisode. Allez, wesh wesh yo!